France Culture.
Et on reprend la route des midis de culture. À 13h comme promis, on discutera avec Christophe Rauque, metteur en scène et patron du théâtre Nanterre Amandier. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La France, via l'Institut français, propose aux artistes des résidences de création partout dans le monde. Alors aux côtés des historiques, la Villa Médicis à Rome, la Villa Kujoyama à Kyoto, la Casa Velázquez à Madrid, de nouvelles formes de résidences voient le jour sur le modèle de la Villa Albertine aux États-Unis. Le point culture s'arrête aujourd'hui sur la Villa Antipode qui propose 4 résidences en Nouvelle-Zélande et les candidatures sont ouvertes depuis le 25 mars. Éric Soulier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande et vous venez de lancer un nouveau réseau de résidences qui s'appelle la Villa Antipode. Alors à quoi elle ressemble cette nouvelle résidence ?
Eh bien, voilà, je vous réponds à vos questions depuis les Antipodes, depuis Wellington. À quoi la Villa Antipode sans S ressemble ? Eh bien, un petit peu à la Villa Albertine aux États-Unis, mais c'est complètement différent parce qu'on est en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est le regroupement de 4 programmes de résidence sur tout le territoire néo-zélandais.
Très concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de maison mère comme on peut le voir par exemple à Rome avec la Villa Médicis, mais qu'il y a 4 résidences réparties sur un territoire assez large dans le Pacifique.
Alors voilà, c'est sur principalement l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. Donc il y a 4 lieux de résidence, 4 villas ou 4 studios d'artistes qui répondent à 4 thématiques différentes.
Alors est-ce que vous pourriez nous les présenter ces thématiques ?
Alors oui, la plus ancienne en fait c'est le Randall Cottage qui existe depuis 2002. C'est une résidence littéraire et qui a été créée pour relancer un petit peu, alors c'était quand même une quinzaine d'années après les événements du Rainbow Warrior, mais c'était vraiment pour marquer cette renaissance de la relation franco-néo-zélandaise au travers du temps long que peuvent passer les écrivains. Et donc c'était une très belle idée puisque maintenant on en est à notre 24e écrivain en résidence à Wellington.
Et est-ce qu'il doit y avoir un lien avec le territoire qui les accueille ? Est-ce qu'ils doivent, coopérer avec des auteurs locaux ou quelque chose comme ça ?
Alors oui, l'idée c'est que pour le comité de sélection, en tout cas pour le dépôt du projet, l'écrivain ou l'écrivaine qui sera sélectionné doit envoyer un projet qui a un lien avec la Nouvelle-Zélande. Pas nécessairement une histoire liée à la Nouvelle-Zélande, mais que ça puisse faire référence à la nature, à ce pays, à l'insularité. Dans les écrivains qu'on a pu avoir, il n'y a pas eu 24 écrivains qui ont écrit sur la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, quasiment aucun n'a écrit finalement une histoire propre à la Nouvelle-Zélande, mais en fait, ils sont inspirés du lieu et de la géographie particulière de cette île néo-zélandaise.
Mmh. Donc, une résidence pour les écrivains et les 3 autres ?
Alors, les 3 autres, donc 2 autres à Wellington, ce qui en fait 3 au total. Une créée en 2016 avec l'université Massey, qui s'appelle Tefare Era, et qui est une résidence dédiée aux arts visuels. Et puis une plus jeune qui a été créée en 2023 avec une autre université de Wellington, avec Victoria University, qui s'appelle Cinematic Arts Miramar, et qui, elle, est dédiée à l'audiovisuel, au cinéma, aux effets spéciaux, parce que Wellington a la particularité d'être la ville de Peter Jackson et de Jane Campion, et par adoption de James Cameron, qui termine le prochain Avatar. Donc tout ça veut dire qu'il y a des milliers de professionnels de l'audiovisuel dans cette ville, et donc on s'était dit que c'était vraiment un point fort de la ville et de la Nouvelle-Zélande, et que ce serait intéressant de créer des liens avec la France, et voilà, on a lancé ça en 2023.
Il nous en reste une, ouais.
Alors, il nous en reste une. J'allais revenir un petit peu sur Tefare Era, celle avec l'université Massey, qui est la plus ancienne après le Randall Cottage, mais justement sur les arts visuels et qui, elle, a la particularité. Vous me posiez la question, justement, la question du lieu. Ben, elle a un lieu assez magique parce qu'on est carrément sur l'eau, Te Whare Era, ça veut dire, le Whare, c'est comme en polynésien, c'est la maison, et Era, c'est, sont les voiles. Et donc, c'est la maison des voiles ou la maison des vents. Et en fait, c'est un atelier studio qui se trouve sur le port et sur la mer de Wellington. Donc, c'est quand même assez magique de se retrouver dans ce lieu. Et la dernière, qui a été à peu près créée à la même année que Te Whare Era, qui s'appelle Te Atata, qui cette fois-ci veut dire l'aube en maori, est à Auckland. Et elle fait un pont entre art et innovation. En fait, il faut déposer un projet pour toutes ces résidences et que ce projet soit accepté par les comités. Il y a 4 comités de sélection différents qui sont tous paritaires. Alors, paritaires à 2 niveaux, hommes-femmes et paritaires français-néo-zélandais. Et puis, parfois, on va même jusqu'à pousser la difficulté à faire en sorte qu'on ait, dans cette parité de Français et de Néo-Zélandais, autant de personnes qui soient physiquement basées en France que d'autres qui sont basées physiquement en Nouvelle-Zélande. Mais ça a son importance, parce qu'on a vu que dans le travail de sélection, l'apport culturel des uns et des autres et les discussions que ça engendre est extrêmement important pour justement faire en sorte que le bon choix ou le meilleur choix possible soit fait.
Alors, vous parliez de présence physique, mais dans votre nom même, Villa Antipode, on sent la distance lointaine avec l'Hexagone. Est-ce qu'avoir sur son sol un réseau de résidences, c'est aussi une manière de rapprocher les deux pays, la France et la Nouvelle-Zélande ?
Complètement, oui, c'est exactement l'idée. De la rapprocher, évidemment, on a 18 000 km de distance, donc... Dès le départ, mes prédécesseurs ont eu cette intuition, et qui est une évidence, c'est que le temps long permet de créer ces liens entre artistes, le temps long de la résidence et le temps long de l'après-résidence, puisque on ne vient pas en Nouvelle-Zélande par hasard, ce n'est pas un pays de passage, c'est un pays de destination. Donc, c'était important justement d'avoir ces lieux, ces moment d'échange et cette capacité pour tous ces artistes dans ces médiums différents de travailler avec d'autres artistes, la communauté, comme on aime ici à le dire, la communauté artistique, la communauté locale de la ville, du territoire, pour pouvoir créer ces moments d'échange.
Est-ce qu'il y a un appel à candidature prochain, bientôt ? Comment ça se passe ? On peut postuler quand on veut ?
Non, alors ça va se faire dans quelques jours, le 25 mars, j'appelle tous les artistes intéressés par l'écriture, les arts plastiques, l'audiovisuel, le numérique, le cinéma, les effets spéciaux, l'animation, à soumettre un dossier, et ils auront jusqu'au 15 mai à minuit, et donc toutes les candidatures seront ensuite examinées par des jurys composés, comme je disais, de professionnels néo-zélandais et français. Voilà.
On mettra tous les liens, en tout cas, sur la page internet du Point Culture. Merci beaucoup, Éric Soulier, de nous avoir présenté la Villa Antipode.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, les douanes ont enrichi la collection de la BNF.
Oui, 2 biens culturels historiques ont été remis hier à la Bibliothèque nationale de France par les douanes françaises. Un sou d'or, d'abord, frappé du sol français sous le règne de Charlemagne entre 768 et 814, aussi appelé solidus en or. On en connaît seulement 4 autres exemplaires. La pièce a été saisie après le signalement d'un numismate. Le deuxième objet remis, c'est un planisphère de 120 cm sur 287, représentant le monde dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Il avait été saisi alors qu'une personne tentait de le faire passer en Allemagne pour le vendre.
Mox poursuit sa croissance après 20 ans d'existence.
La plateforme allemande où revendre et acheter des livres d'occasion a annoncé 8,6% de chiffre d'affaires supplémentaire en 2024. Une hausse portée entre autres par la France où ce chiffre progresse de 4,4%. L'entreprise s'émancipe d'ailleurs des sites de la Fnac, Rakuten ou Amazon avec 2/3 des ventes désormais réalisées sur ses propres canaux. Selon une étude menée en 2022, un livre sur 5 en France est acheté d'occasion.
Et pour finir, Marie, on connaîtra à 17h la programmation du Festival d'Avignon 2025.
Oui, ça y est, on y est. Fin du suspense. Annoncé à la Fabrica Avignon et en temps direct en ligne sur les réseaux sociaux du festival, la programmation de la 79e édition doit faire la part belle à la langue arabe invitée cette année. Si l'on sait déjà que la Cour d'honneur accueillera la chorégraphe capverdienne Marlène Montero-Freitas et la Comédie française avec le soulier de satin de Claudel, le directeur Thiago Rodriguez va cet après-midi dévoiler la totalité du programme qui se tiendra cette année du 5 au 26 juillet. Une seconde présentation aura lieu demain à Paris à l'Institut du Monde Arabe à 15h. Et à noter que pour la première fois depuis 25 ans, le Festival OFF d'Avignon se tiendra aux mêmes dates que le festival.
Merci Marie. Et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est bientôt 13h et vous êtes sur France Culture.